L'écran radiophonique vous présente un scénario original de Jean-Pierre Junier. Simara. Mise en scène production Jean-Pierre Junier. Attention, l'écran radiophonique est une marque déposée et ne peut être utilisée sans l'autorisation du propriétaire. Les œuvres qui sont sur cette marque sont la propriété de l'auteur. La jeunesse est sacrée. Tout est pour eux. Les arts, la consommation, les lois, etc. Et les jeunes vivent un monde violent à la bande dessinée. D'ailleurs, tout est bande dessinée. La peinture, la sculpture, le théâtre, le cinéma, la chanson, les livres. La bande dessinée a tout envahi et envoie à un monde primaire, même pas d'ados, mais de gosses débiles. Les compagnons de GU décident c'est de préparer la jeunesse et de créer une bande dessinée où un prince sortant des âges sauve le monde. De la propagande pour la jeunesse, faire appeler le prince Jean Ier. Philippe et Morel parlent et disent qu'ils sont au point mort. Morel démoralisé, comme ça, prend l'ADN qu'il a chez lui et regarde. Il compare, comme ça, pour rigoler, pour voir comme ça, quoi, avec celui de Jean-François. Il s'aperçoit avec surprise que l'ADN de Jean-François est le même que celui de lui. Louis X. Il est surpris. Essaye plusieurs fois. Ne crois pas. Se tromper. Va vite voir Philippe. Lui parle de sa découverte. Philippe lui demande si c'est vrai. Il lui dit oui. C'est bien sûr. Si c'est lui, cela risque de créer. De nuire au prétendant qui est accusé de mort. Peut-être attention, Morel lui demande. Pourquoi? Et s'il est accusé, Philippe lui dit, il ne faut pas. Je vais prévenir le ministre, Morel lui dit, il ne voudra surtout certainement pas. C'est un républicain et qui veut qu'on l'élise un de ses amis. Il va chez le ministre de la Justice. Il lui dit qu'on ne peut pas exécuter ce jeune homme. Il n'y a pas de preuves. Il est pauvre parmi les pauvres. Cela risque de créer des heurts si on l'exécute. Attendons peut-être du nouveau. Si vous l'exécutez, la gauche va créer des ennuis. Il faut le laisser tranquille. Le ministre lui dit, c'est une bombe à retardement qui sera désamorcée. On décide c'est que les crimes recommencent pour innocenter Jean-François. Et ces deux hommes à lui, la nuit dans les allées, ils assassinent des femmes. On dit que c'est la preuve qui innocente Jean-François. Et Jean-François est décidé, apprend qu'il est libéré.
Tu veux voir comment c'est, hein? Salope!
Les journalistes annoncent sa libération. Les gens sont furieux. Ils vont tous à la sortie de la prison pour lyncher le pauvre Jean-François. La police le protège, mais cela crée une émeute. On réussit à retirer Jean-François des émeutiers. Une voiture l'attend un peu plus loin. On le mène vers la voiture. C'est celle de Georges qui est là pour le mener dans un lieu où il sera tranquille. Malheureusement, entre la voiture et celle de Georges, il y a une autre voiture aussi semblable. La police se trompe et fait entrer Jean-François dans cette voiture qui est celle de Grégoire. Une fois dans la voiture file et va hors de Paris. La voiture s'arrête en pleine campagne. Il est mené dans le sous-sol d'une vieille maison à la campagne. Jean-François ne comprend rien. Surpris, il demande ce qu'on lui veut et pourquoi on le séquestre. On ne lui répond pas. Georges et son chef Yves se disputent. Yves lui dit: vous auriez dû le tuer, Grégory lui dit. Mais c'est un assassinat. Qu'importe. Et que faire, d'après vous? Grégory lui dit: ben, ma foi, le garder prisonnier. Yves dit: impossible, il risque de s'évader. L'émeute n'a servi à rien. La police le protège. Et elle a... elle va faire des recherches. Elle est alliée avec les autres. Que pouvons-nous nous faire? Yves dit aussi: il faut l'exécuter avant que les autres essayent de nous le prendre. Jean-François croit qu'il a été pris par des gens qui le croient coupable. Il se dit qu'il faut qu'il essaye de se sauver. Regarde et voit qu'il est bien enfermé et surveillé. Comment faire? Cherche. Essaye de voir les murs, plafond, sol. Le sol, c'est des plaques de vieilles pierres. Il voit qu'il y a une vieille pierre dont les contours sont de la terre. Vite, avec une cuillère, il enlève autour la terre. Réussit à disjoncter. Avec sa cuillère, il dévisse un pied de lit de camp pour s'en servir de levier. Après un long effort, il réussit à soulever la pierre qui montre un passage qui doit sûrement aller jusqu'au parc. il descend, se disant que ça devait être un ancien passage pour sortir de la maison sans être vu, en cas où elle était assiégée par quelques révolutionnaires. Elle arrivait à la fin du passage. Il a la joie de se retrouver au milieu de la propriété, en dehors de la propriété, en pleine campagne. Vite, il décide, c'est de s'éloigner. Mais de s'éloigner, mais pour aller où? Où est Paris? Faut-il retourner à Paris ou disparaître et aller dans la France profonde? Il décide d'aller tout droit, sans argent, sans bagages. Ses geôliers se s'aperçoivent de son départ. Ils sont furieux. On lui court après, mais trop tard. Il est allé où? Yves dit qu'il a peut-être dû retourner à Paris. Alors, s'il retourne à son quartier, là, on le tue. Pendant ce temps, Georges et Philippe se demandent où il a été mené. Peut-être est-il mort. Puis il dit qu'il faut prendre un Templier et le faire parler. Georges lui demande comment, où. À Saint-Denis. Ils y travaillent. Et on le force à dire où habite leur chef. À Saint-Denis, après leur travail, ils suivent un Templier et le poussent dans leur voiture. C'est un homme grand, mince, cheveux châtains. Il est mené dans une chambre d'un vieil immeuble délabré. On lui pose des questions pour savoir où habite leur chef. Le Templier refuse de le leur dire. On lui met des allumettes sous les ongles. On le torture. Il finit par dire que de toute façon, ça n'a aucune importance. Le chef peut être de partout. Alors il dit la maison. Georges et ses hommes à lui vont à la maison. Réussit à y rentrer. Malheureusement, elle est vide. Il la visite de la cave au grenier, rien. Ils ne savent pas où est Jean-François. Les Templiers cherchent dans son ancien quartier pour voir s'il n'y est pas. Ils surveillent Armance, qui, elle, attend peut-être son ami. Elle se demande pourquoi il n'est pas venu la voir. Elle est triste. Elle se demande où il a dû aller. Peut-être à cause du lynchage, la police le cache-t-elle? Le cache-t-il? Elle a appris par la radio qu'il était disparu, qu'il avait disparu. Le Templier croit que Jean-François veut venir la rejoindre. On prit une pièce en face de chez elle et surveille avec une carabine. Jean-François marche droit devant lui dans la campagne. Il a faim, froid, dort dans les talus. Les paysans qui le croisent le prennent pour un vagabond. Il est sale, barbe, vêtements, mange des pommes. Arrivé à un village, il y a une épicerie. Malheureusement, il n'a pas d'argent. Alors il décide de demander aux paysans. On le chasse. Seul, une vieille femme le reçoit. Et lui donne la soupe. Merci. Elle lui dit qu'elle comprend la misère, que son mari est mort et qu'elle s'est trouvée seule sans rien. Il est mort d'une longue maladie. Et pour le soigner, comme la sécurité sociale, il ne l'avait pas parce qu'il était en fin de droit. Ils ont tout vendu pour les soins. Personne ne nous a aidés. On est simplement venu pour savoir ce qu'on allait vendre. Mais moi je voulais pas vendre. Si j'avais au moins quelqu'un pour pouvoir recommencer la ferme, et sans argent, rien. J'ai repris la ferme comme ça, juste pour moi, ça m'empêche de mourir de faim. Les gens ne m'aiment pas, parce que je m'en sors un peu, mieux qu'eux en tout cas. Et qui es-tu, toi? Je suis un rien. Rien. Un rien avec des yeux pareils. Je veux bien t'héberger, te nourrir, te loger, mais j'ai pas d'argent. Tu pourrais m'aider au foin et puis à d'autres travaux de la ferme. Et réfléchis, accepte, de toute façon il n'y a rien. Tu ne mourras pas de faim, tu verras. Il se dit, oui, qu'il ne mourra pas de faim. Elle l'installe. Elle lui dit les travaux de la ferme qu'il a à faire. Elle voit qu'il n'est pas très habile. Il demande ce qu'il faisait avant. Petit boulot, en ville. Il reprend des forces, se sent mieux. Les jours passent. Un jour, il y a un violent orage. Elle est allée chercher les bêtes au champ. Il va la rejoindre. Les bêtes sont apeurées, courent dans tous les sens. Elle, elle est prise dans le tourbillon, ruisselante, a des difficultés à respirer et ne peut avancer. Il la prend dans ses bras et la ramène chez elle. Elle lui dit, les bêtes. Alors, il retourne. Il réussit à les ramener à l'étang. Trempé, essoufflé, il la retrouve à la cuisine. Il la retrouve à la cuisine près du feu. Elle lui dit de se déshabiller parce qu'il risque de prendre froid. Torse nu. Ainsi des faits, elle le trouve beau et se met à le désirer. Lui ne fait pas attention. Il a pris froid. Elle le soigne amoureusement et s'imagine qu'il restera toujours près d'elle. Lui, faible, se laisse faire. Elle le donne en lote. Lorsqu'il va mieux, elle croit qu'il est contre. Son intimité. Puis il croit qu'il est entré dans sa vie. Il s'en aperçoit. Elle essaie de lui faire comprendre qu'ils seraient heureux tous les deux. Il lui dit qu'il n'est pas d'ici, qu'il ne peut rester longtemps. Il lui demande pourquoi. Vous vivez seul. Il lui dit. Je vis seule. Elle lui dit alors, rien ne vous empêche de rester ici. Des gens du village se demandent quel est cet homme qui est chez elle. Les femmes viennent la voir comme ça. On lui dit de se méfier. On ne fait pas rentrer n'importe qui chez soi. Elle lui dit que ça ne les dérange. Elle leur dit que ça ne le dérange pas, la dérange pas. Un jour, un paysan voit à la télévision le visage de Jean-François. On dit qu'il a disparu depuis sa libération, le présumé tueur en série de femmes. Il va le dire à la pauvre fermière. Je suis sûr que c'est lui. Faites attention. Les gens surveillent le tueur, comme ils disent. Peut-être faut-il prévenir les gendarmes. La femme est attristée parce qu'il ne répond pas à ses avances. L'observe, le trouve étrange et se dit que c'est vrai. Il est venu comme ça. Ce jeune, on ne sait où. Alors, et se dit que s'il refuse son œuvre, c'est qu'il y a quelque chose à cacher. Les gens du village ont prévenu les gendarmes. Les gendarmes viennent la voir pour savoir qui il est. Jean-François est au champ. Il les voit, il les a vus arriver. Il décide, c'est de partir. Ils veulent le voir, mais il n'est plus là. Les gendarmes se disent que c'est louche, pas net. Décide, c'est de le rechercher. Lui court la campagne. Il a peur. La gendarmerie prévient Paris. Le prisonnier tueur en série a fait un séjour chez eux. La femme se dit qu'elle a échappé à un criminel. Voilà ce que c'est que d'être bonne. On fait entrer n'importe qui chez soi. D'ailleurs, il était louche, drôle de regard. Oui, il devait préparer un coup. Heureusement que la gendarmerie a réussi à me prévenir. Autrement, on m'aurait retrouvé coupé en morceaux. L'on fait des recherches, mais le pays est bien boisé. Son signalement est dans tous les villages et villes du coin. La chose s'est ébruitée. À Paris, les journalistes en parlent. Les compagnons de Jéhu et Templiers apprennent. Paris, les journalistes en parlent. Les compagnons de Jéhu et Templiers apprennent qu'il est dans cette région. Ils décident d'aller voir. L'un, c'est pour éliminer. L'autre, c'est pour le protéger. Le pauvre Jean-François marche la nuit pour ne pas être opéré. Et la journée, il dort dans les fossés. Il a à peine chaud. Il se demande pourquoi on le poursuit puisqu'il est libre. Jean-François évite le village. Parce que malgré lui, il a peur. Pourtant, il se dit qu'il n'a rien à craindre du moment qu'il a été libéré. Mais non, il a peur malgré lui. Il mange ce qu'il peut, c'est-à-dire quelques fruits. De manger toujours des fruits, ça lui donne mal au ventre. Et puis, il boit de l'eau glacée aussi. Il se demande ce qu'il va devenir. Georges va voir la fermière, lui pose des questions pour savoir ce qu'il est devenu, ce qu'est devenu Jean-François et ce qu'il faisait. Elle lui répond de mauvaise grâce et lui dit que ce n'est que quelqu'un de rien du tout, pas quelqu'un de bien, que c'est un criminel, tueur de femmes, Georges lui dit que c'est faux, il était innocenté. Il lui demande pourquoi. La gendarmerie le recherche. Il lui dit c'est parce que les gens et vous-même étiez paniqués. Mais vous allez regretter de ne pas l'avoir bien accueilli. Elle lui demande pourquoi. Il lui dit parce que c'est une personne très importante et vous allez vous en flatter de l'avoir eu près de vous quelque temps. Elle lui dit, un vagabond ? Il lui dit, pas comme les autres. Elle pense qu'il est fou. Un matin, Jean-François marche sur une petite route déserte. C'est rare qu'il marche sur une route, mais lorsque c'est le matin et qu'il n'y a personne, il marche sur une route pour se chauffer un peu. Une voiture arrive. Vite, il se cache dans un fossé. Ils l'ont vu se cacher dans un fossé. Jean-François, qui a vu qu'on venait vers lui, se met à courir lui aussi. Il court plus vite qu'il peut. Malheureusement, il est pris par derrière. Il se défend, mais il ne peut. L'homme le retient bien et lui dit, non, vous pouvez du mal, calmez-vous. Alors Jean-François se laisse mener. On le mène jusqu'à la voiture. Une fois près de la voiture, on le fait rentrer dans la voiture. Jean-François lui demande ce qu'on lui veut. Georges lui dit, vous aidez, on ne vous fait pas de mal. Jean-François se laisse mener. Où vous me menez ? Georges lui dit, à Paris. Jean-François, pourquoi me forcer à aller à Paris ? Georges lui dit, parce que votre destin est d'y aller pour de très grands desseins à accomplir. Jean-François le regarde, surpris, et lui dit, moi, recherché par la police ? Georges lui dit, oui, et vous vous devez à la France. Votre destin est lié à elle. Jean-François lui dit, moi ? Vous êtes fou ? Je ne suis rien, rejeté par tous. Georges lui dit, non, pas par tous, et je suis là pour vous protéger. Oui, pour vous protéger. Jean-François lui dit, en imposant d'aller à Paris, en vous menant vers votre destinée. Jean-François lui dit, vous dites n'importe quoi. Mais si ma destinée est de moisir en prison, je refuse. Je refuse. Georges lui dit, votre destinée est de régner. Jean-François lui dit, qu'il est fou. Georges lui dit non, Jean-François. Mais nous sommes en République. Georges lui dit une République à l'agonie. Jean-François dit mais pourquoi moi je dois régner? Je ne suis rien. Georges lui dit vous êtes le descendant direct de Philippe Bel. Jean-François lui dit si je l'étais, je le serais. Et je ne suis rien. Georges lui dit pour éviter que l'on vous assassine, votre descendant, le jour de son baptême, vous avez été échangé. Votre ancêtre était Jean Ier, fils de Louis X et de Clémence de Hongrie. Vous êtes la lignée directe de Louis X. François le dit. C'est faux, idiot. Et comment m'avez-vous trouvé? Comment avez-vous trouvé que c'était moi après tant d'années, de siècles même? Georges lui dit, l'ADN, avec l'ADN du roi. Oui, nous avons cherché grâce à l'ADN. On a pu retrouver le descendant de Philippe le Bel. Jean-François lui dit, mais l'ADN a dû se transformer au cours des siècles grâce à des unions. Philippe lui dit, oui, mais la source est restée la même. On sait mieux lire l'ADN et voir les couches sélectives qui ont été mises grâce aux unions. Vous, vous avez la même source que celle de vos ancêtres. Jean-François demande comment avez-vous retrouvé? Georges lui dit parce que un de nos membres travaille au laboratoire de police et par hasard il a comparé comme ça avec l'ADN par vous pour voir si vous étiez coupable des crimes et il a vu que vous étiez semblable à celui des rois. Jean-François, qui? Georges lui dit, nous sommes témoins de Jésus, compagnons de Jésus. Georges lui dit, qu'est-ce que cette mascarade? C'est du grand guignol. Les compagnons de Jésus, Alexandre Dumas. Georges lui dit, oui, mais ça existe pour de vrai. Votre rôle est de rechercher, notre rôle est de rechercher un roi à la France. Georges lui demande, mais pourquoi pas? Jean-François lui demande, pourquoi pas le comte de Paris? Mais c'est un incapable. Ni le prétendant Bourbon d'Espagne. Et il y a de plus en plus de prétendants. Il y en a beaucoup. Et puis vous? Vous venez de rien, donc plus près du peuple. On a besoin d'un roi pour tout, pour tous et déshérités. Vous avez vécu dans la rue. Cela va émouvoir le peuple, vous rendre sympathique. Trancher avec les prétendants de la présidence de la République. Jean-François lui dit, peut-être bien, mais moi, je ne me vois pas être roi. Je veux une vie calme, sans histoire. Georges lui dit, que la naissance vous donne des devoirs. Jean-François lui dit, si personne m'avait retrouvé, j'en aurais pas eu. La main de Dieu vous a désigné, vous a retrouvé et veut que vous passiez ce don, votre destin, votre naissance. Vous dit de faire et de voir que vous avez à faire. Ils se sont arrêtés à une auberge. Jean-François leur dit, « Je suis peut-être la main du diable. Nous verrons. J'ai faim. » Jean-François mort de faim. Il dit pour rire, « Le roi mort de faim. » Et bien mangé, sire. Jean-François lui demande, « Je vais à Paris pour m'asseoir sur le trône ? Je vais vivre à Versailles ?» Alors je lui dis, « Pas tout de suite, il faut d'abord vous cacher. Pourquoi ? Parce qu'on vous cherche pour vous éliminer. » Les républicains ? Non, eux ne savent pas que vous existez. Mais les Templiers, Jean-François lui dit, ils ont disparu. Non. Non. Ils sont devenus compagnons du devoir du Tour de France. Ils sont très riches. Vous comprenez ça? Demande, et pourquoi est-ce qu'ils veulent me tuer? Parce que ils ont la haine contre les rois de France, surtout les descendants de Philippe le Bel. Que vous êtes un descendant direct, donc il va falloir vous cacher. Jean-François lui dit, « Mais il fallait me laisser dans mes bois, là il ne m'aurait pas retrouvé. » Ils arrivent à Paris. Il est mené chez Morel. Morel le reçoit comme un roi. Chambre, douche, vêtements propres, repas. Morel demande à Georges s'il a cru à tout ce qu'on lui avait dit et qu'il risquait d'être tué. Georges lui dit, oui, mais très crédule. Bon, il doit nous prendre pour des illuminés. Morel lui dit, ça lui passera. Morel dit qu'il ne peut rester ici. Les Templiers savent où il habite. Et il peut venir à tout instant. Il faut lui trouver plutôt dans la ville. Dans une ville, c'est plus facile de disparaître. Lui trouver un logement dans un lieu quelconque et qu'il ne se fasse pas remarquer. On lui explique tout ça. Jean-François leur dit qu'il est prisonnier. Mais non, mais il faut vous protéger. Et si je refuse d'être roi, vous en avez les droits, mais vous avez des devoirs vis-à-vis des miséreux, de la France, des gens qui souffrent. Jean-François leur dit, mais je ne peux pas les aider, je ne suis rien. Si vous pouvez les aider, en leur donnant confiance en l'avenir et en parlant pour eux. Jean-François dit, et les républicains, ils seront furieux? Mais ne pourront rien si le peuple est près de vous. Mais comment savez-vous que le peuple est près de moi? Morel lui dit, en vous présentant, aux élections. Jean-François lui dit, vous êtes président de la République ? Oui, après, vous faites un référendum pour vous, quand vous élisez roi à vie. C'est vous qui le demandez. Jean-François lui dit, mais on va me prendre pour un dictateur qui supprime la République. Le peuple sera avec vous. Et les partis seront obligés de s'incliner. Jean-François lui dit, c'est un peu tard pour se présenter. Non, il reste un mois. Et 500 signatures. Nous les avons. Les mairies des petites communes donneront leurs signatures en échange de quelques aides. Une route à garder, à goudronner, une église à restaurer, des canalisations d'eau à refaire, un camion pour le ramassage des ordures, internet, etc. Jean-François reste sceptique. Il demande du mon programme. Morel lui dit, souveraineté de la France, etc. Jean-François lui dit, mais en attendant, je dois me cacher pendant peu de temps, jusqu'à ce que vous êtes candidat à la présidence. Nous vous avons présenté dans la série L'écran radiophonique un scénario original de Julien Jean-Pierre, Si Marat, production, mise en scène, Julien Jean-Pierre.